French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Salut et bienvenue dans French Expat. Moi, c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes. Si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce, dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là et belle écoute.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat le podcast. French Expat le podcast est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde pour raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou ont vécu. Moi c'est Laetitia, une des cofondatrices du podcast et je vous parle depuis Grenoble. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Depuis plusieurs semaines sur le podcast, nous parcourons le monde grâce aux récits passionnants de nos invités. Après l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Australie et le Moyen-Orient, je vous emmène avec mon invité du jour découvrir un nouveau continent, l'Amérique latine. En 2010, elle termine ses études de géologue et se met à la recherche d'un emploi. Alors qu'elle passe des entretiens en France au sein d'un groupe international, on lui demande si elle est mobile. Elle répond par l'affirmative, pensant se voir offrir un poste au siège à Paris. Ce n'est que lorsqu'elle reçoit sa confirmation d'embauche qu'elle réalise que sa première affectation sera en fait à Rio de Janeiro, au Brésil. Nous sommes en 2010 et sans trop vous dévoiler de son parcours, c'est depuis l'Argentine qu'elle répond aujourd'hui à mes questions. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Lysiane pour vous parler de son histoire. Salut Lysiane, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast.
Merci, moi aussi.
Alors, on va parler avec toi de ton expatriation. Aujourd'hui, on se parle et toi, tu es en Argentine. Mais l'Argentine n'était pas le premier pays dans lequel tu t'es expatriée puisque tu avais préalablement vécu au Brésil.
Oui, c'est ça.
Ok. Donc, avant qu'on rentre dans les détails, comme tu le sais peut-être, on aime bien parler de la vie avant expatriation. Alors, est-ce qu'on peut revenir quelques années en arrière et est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais avant en France? Où tu habitais, qui tu étais, dans quoi tu travaillais.
D'accord, alors moi je viens du sud de la France, j'ai passé toute ma vie en Provence, dans le sud de la France, donc plutôt sympa. J'ai fait mes études donc, en géologie pétrolière, donc je suis géologue de formation, donc tout ce qui est ressources naturelles, minières, pétrolières. Et en fait, il s'est trouvé que à la fin de mes études, le premier boulot que j'ai trouvé a été une expatriation au Brésil. Donc j'ai eu plutôt de la chance sur ce coup-là parce que c'est quand même assez rare que les jeunes diplômés ou comment dire carrière récente quoi soient envoyés en expatriation directement quoi. Donc c'était cool.
Tu cherchais, tu avais vraiment ouvert tes horizons à ce moment-là de ta recherche d'emploi ou est-ce que tu as trouvé une entreprise en France qui t'a envoyé directement au Brésil ?
Alors l'entreprise est internationale mais j'ai effectivement passé mes entretiens tout ça en France. Mais tout était en anglais et il te pose la question, est-ce que vous êtes mobile ? Moi, j'ai dit oui, pensant me retrouver au siège à la Défense, un truc comme ça. Et en fait, non, je me suis retrouvée avec une feuille qui me disait « Location Rio de Janeiro ». Donc, j'ai fait « Ah, d'accord !» J'ai quand même demandé confirmation si c'était bien ça, si c'était sûr, combien de temps je partais, tout ça. Et non, c'était bien ça. Donc, voilà. quelques mois à faire les papiers, les visas, et puis hop, direction le Brésil avec deux valises et le chat.
Et le chat, d'accord. Donc toi, tu n'étais pas spécialement dans une optique de partir vivre à l'étranger, ou ce n'était pas forcément quelque chose que tu recherches, mais l'opportunité se présente et vraiment, tu es partante.
J'ai toujours voulu envie de faire ça à un moment de ma carrière. En fait, j'ai choisi aussi cette voie pour ça, parce qu'on sait que tout ce qui est industrie pétrolière, tu peux te retrouver facilement aux Émirats, en Afrique, en Asie, tout ça. Donc, moi, je m'étais dit, je fais cette carrière-là parce que déjà, ça me plaît. Et en plus, quelques années plus tard, peut-être avec ma famille, on aura l'occasion de s'expatrier, tout ça, tout ça. Quand j'étais plus jeune, mon père avait une offre d'expatriation aux États-Unis qui n'a finalement pas abouti. Mais ça aurait été cool, quoi. On a toujours été une famille qui a... Lui, nous a toujours encouragé à voyager et à s'expatrier, même pour les études, faire des semestres à l'étranger, tout ça. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que je me suis mal renseignée avec ma fac et du coup, ça ne s'est pas fait. Mais voilà, du coup, ça D'accord. s'est fait après, directement après le diplôme.
D'accord. Et donc, tu le disais, tu pars en quelques mois, c'est ça, le temps de faire les démarches administratives. Et du coup, est-ce que ça, c'est... comment ça se passe pour obtenir un visa et genre quel genre de visa même on obtient pour un poste comme ça au Brésil?
Alors, la boîte m'avait envoyé tout ce qu'il fallait faire, plus ou moins. Ensuite, je me suis renseignée sur le site de l'ambassade du Brésil qui était à Paris, en essayant de comprendre ce qu'il fallait envoyer comme papier, en étant sûre que j'allais me tromper dans les papiers. Mais finalement, ça s'est plutôt bien fait. Il fallait faire envoyer des papiers d'identité, faire valider son diplôme, le traduire, mettre une espèce d'apostille. Et ensuite, aller à Paris récupérer le visa en personne. Donc, j'y suis allée une fois pour rien.
À l'ambassade.
Voilà. Sachant que c'est limité à une cinquantaine par jour, je crois, et tu ne peux pas prendre rendez-vous. Il faut être les 50 premiers dans la file, quoi. Donc, moi, habitant dans le sud de la France, je prenais le train à 4h du matin pour arriver à l'ouverture à l'ambassade. Et il y avait déjà du monde qui faisait la queue. Et donc, je suis allée une fois pour rien, parce que ce n'était pas prêt. Et la deuxième fois, oui, je suis revenue avec mon visa dans la poche.
D'accord. Et tu dirais qu'il s'est passé à peu près combien de temps entre le moment où tu as commencé tes démarches et le moment où tu as eu le visa?
Alors, j'ai eu mon offre d'affectation, c'était en avril, je crois, 2010. En mai 2010, je me suis mariée. Et en septembre 2010, exactement, je suis partie au Brésil. Donc, le visa, je l'ai eu, je crois, en juillet ou mi-août, quelque chose comme ça. Et après, en fait, la date de départ pour commencer à travailler, en fait, était basée sur... Bon, il y a des stages, en fait, de début de... Comment ça s'appelle ? Une formation, en fait, la première semaine où tu es employé. Et donc, c'était une par mois. Donc, en fait, il fallait qu'ils me mettent sur une de ces formations. Et je n'ai pas eu le visa à temps pour faire celle de juillet, un truc comme ça. Et du coup, j'ai fait celle de septembre. Enfin, un truc comme ça. Il me semble que c'était ça. C'est pour ça que ça a décalé. Mais après, le visa, ça a pris un mois et demi peut-être, le temps d'avoir tout. Parce qu'il faut tout envoyer à Paris. Ensuite, il te renvoie en disant un mail. Oui, c'est bon, c'est prêt, il faut venir le chercher. Donc, il faut se déplacer. Et voilà. Et donc, j'avais eu un visa, on te le colle dans le passeport, en fait, et il y a écrit « cette personne est affiliée à telle entreprise ». Donc, a priori, tu n'as pas forcément le droit de changer de boulot, parce que ton visa est géré par l'entreprise.
Ouais.
Et le visa de mon compagnon à l'époque, mon mari, lui, il avait écrit « compagnon de Madame Lysiane, hein, qui travaille pour telle entreprise ». Et lui, sur le sien, il avait écrit « interdit de travail rémunéré ».
D'accord, ok. Donc, il n'y avait que toi qui partais avec une autorisation de travail.
Après, lui, s'il avait voulu travailler, il aurait fallu qu'il trouve une entreprise qui lui sponsorise son visa et le faire changer en tant que visa de travail. Mais bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Mais bon.
D'accord. Alors, tu quittes septembre 2010, tu quittes ta province natale, hein, c'est ça? Et
c'est ça.
Tu t'envoles pour Rio de Janeiro.
C'est ça, je pars avec deux valises bourrées à craquer de tout ce que j'ai pu prendre, parce que pas de container ou pas de déménagement. Donc, et j'arrive toute seule à Rio la nuit. C'était sympa.
Du coup, là, t'étais pas avec.
Non.
T'étais pas partie avec ton mari à ce moment-là.
Non, lui était en train de finir donc de rendre l'appartement, vendre les meubles qu'on voulait pas mettre de côté, et il avait démissionné pour faire un suivi de conjoint. Donc du coup, il était en train de finaliser ça, et puis il m'a rejoint. On s'est dit que ce serait plus sympa qu'il me rejoigne une fois que moi je serais installée, que j'aurais commencé et que je nous aurais trouvé un appartement surtout.
D'accord.
Ouais.
Et alors, comment se passe ton arrivée à Rio, seule avec tes valises, dans une ville que tu ne connais pas?
Alors j'arrive, il y avait un chauffeur de la boîte qui m'attendait pour m'emmener à mon hôtel. Et moi, j'avais pas du tout regardé les cartes de la ville, je savais pas du tout à quoi ça ressemblait, j'avais jamais pensé à... même voyager au Brésil, ça m'était jamais venu à l'idée. Donc j'arrive, le mec me met dans un taxi, on part et on commence à voir des tanks de la police, des mecs avec des fusils énormes. Le gars s'arrête pas au feu rouge, la nuit personne ne s'arrête au feu rouge parce que tu peux te faire agresser. Donc ça met dans l'ambiance de suite. Et moi, toute naïve, je vois un stade au loin, je fais au mec, ah c'est le Maracana et tout. Il me dit non, pas du tout, c'est pas celui-là. C'était assez rigolo, la fille qui découvre, ah, il est où le Christ, machin. C'était pas du tout cette zone-là de Rio, mais bon, j'avais pas capté qu'on n'était pas du tout en centre-ville. Donc, c'était rigolo. Et donc, voilà, je passe ma semaine à faire ma formation d'introduction, on va dire ça comme ça, à faire des copains et à parler un peu plus anglais que ce que je parlais. Et à la fin, voilà, premier jour de bureau, en centre-ville de Rio, avec mon petit sac à dos, voilà. Et ensuite... En à peu près un mois, je crois que j'avais trouvé l'appart et donc mon mari m'avait rejoint et on avait commencé notre petite vie d'expatrié.
D'accord. Est-ce que tu as eu des chocs culturels en arrivant et de quel ordre ?
C'est un peu... Il y a tout ce qui est sécurité. C'est vrai que c'est pas tellement un choc parce qu'on s'y attend. On nous dit que c'est assez dangereux et tout. Mais c'est vrai que quand tu te balades dans la rue et que tu tombes sur un mec bourré qui commence à te crier dessus, c'est dimanche, il n'y a personne dans les rues. Moi, je m'étais perdue. Enfin, je me dis, ah, quand même, oui, il y a peut-être, peut-être un moment que je fasse un peu plus attention, comme si j'étais pas chez... Ouais. Pas comme si j'étais en France, quoi. On m'avait dit... En fait, on te dit au fur et à mesure, moi... En centre-ville, il ne faut pas y aller le week-end parce que c'est vide. Et effectivement, c'est le cas. En fait, il faut juste écouter les locaux. Ils savent mieux que nous ce qui se passe, quoi. Donc, moi, j'étais pas très stressée. Je ne suis pas vraiment une stressée. Je me dis, tu vas devoir prendre le métro tous les jours pour aller au bureau. Donc, ce n'est pas la peine de se stresser à te dire que tu vas te faire agresser sur le chemin. De toute façon, il va falloir y aller tous les jours pendant 2 ans. Tu vas devoir aller au bureau avec ton ordi ou pas. Enfin... Tu fais ta vie, quoi, en fait, voilà.
Et est-ce que tu as eu des problèmes, alors ?
Alors, mais aucun, absolument rien. Je ne sais pas si c'est de la chance, mais vraiment, ou le hasard, parce que j'ai eu pas mal de copains qui ont eu des soucis, de vol, de se faire agresser le sac à main dans une rue, au coin de la rue, alors qu'on se retrouvait 5 minutes après, et que moi, j'ai rien eu, même rue, même personne, enfin... des copains qui se sont retrouvés dans un taxi au milieu d'une fusillade. C'est ouais, des cadavres dans les rues. J'étais dans un taxi, je voyais un cadavre par terre, bon, avec un drap, tout ça. La police était déjà là, mais bon, c'est un trajet que je faisais tous les jours pour la gare routière, enfin tous les jours, tous les mois, tous les 2 mois pour la gare routière. Et là, ce jour-là, il y avait eu un souci, quoi.
Ouais. Oui, et puis c'est pas commun, quoi. C'est pas quelque chose qu'on voit en France.
Ah non, pas du tout. Ouais. Le truc, c'est que quand on vit dans les quartiers qui sont plus ou moins typés expatriés, donc c'est souvent la zone des plages, Ipanema, Copacabana, il me semble que la boîte nous recommandait pas d'y vivre parce que c'est un peu moins safe, surtout au niveau de la plage qui est pas du tout éclairée la nuit. Elle est immense et c'est tellement noir que peut arriver n'importe quoi. Bah, et nous, on habitait dans un quartier qui était un peu plus local, en fait, on va dire. C'était plus des petits buildings, pas vraiment au bord de la plage, petite vie de quartier, des petits supermarchés, des petits bars. Donc ça, c'était assez sympa et je trouvais que c'était pas... Comme c'était pas typé touriste, on se dit qu'on pouvait plus facilement se fondre dans la masse et avoir une petite vie un peu plus comme des locaux plutôt que comme des expats avec de l'argent, quoi.
Ouais, ouais, bien sûr.
Donc non, c'était sympa.
Ok. Ouais. Et alors au Brésil, on ne parle pas espagnol, ou en tout cas pas à ma connaissance, mais on parle portugais. Est-ce que portugais, toi, tu avais des notions de portugais avant de partir ? Est-ce que tu as dû apprendre la langue ? Comment ça s'est passé du point de vue linguistique, en fait ?
Alors moi, je ne parlais pas du tout portugais. J'avais fait espagnol à l'école et je n'étais pas très douée. Et je me suis dit, ah, c'est bien ma veine, c'est le seul pays d'Amérique du Sud qui ne parle pas espagnol. Il va falloir que je réapprenne une langue éventuellement et tout. Sauf que je m'étais dit que, comme c'était le travail était en anglais, que la boîte était internationale, je me suis dit, ah ben non, c'est bon, on ne parlera que anglais. Donc, je n'aurais pas trop besoin de mon portugais, peut-être pour aller au marché, quoi. Enfin, la vie quotidienne. Sauf que pas du tout. Le client principal de ma boîte était la compagnie brésilienne, en fait, la compagnie pétrolière brésilienne. Donc eux, les gens qui bossaient avec eux, il fallait qu'ils parlent portugais, quoi.
D'accord.
Voilà, ils aimaient pas trop avoir les gens qui parlaient anglais, je préférais parler portugais et tout. Ce que je comprends, après, c'est leur langue, c'est comme ça qu'ils travaillent et tout, il n'y a pas de souci. Et bon, c'est plutôt, je veux dire, ça ne me dérange pas, moi, de m'adapter au pays où je suis, il n'y a pas de souci. Donc, la boîte te donne des cours, ce qui est plutôt pas mal. Pendant deux mois et demi, je crois, j'avais une prof qui venait deux fois par semaine. Et elle m'a appris beaucoup de choses. Et en fait, ils t'apprennent des trucs vraiment utiles, quoi. Comment appeler pour réserver un resto, comment remplir un chèque, comment ça marche la banque, tout ça. Pas juste la grammaire, les temps à répéter jusqu'à ce que tu le saches par cœur, quoi.
Ouais.
Non, des trucs utiles pour la vraie vie et comment ça marche. Et puis des petites différences culturelles. Enfin, on discute. Donc, c'était sympa.
D'accord. Et du coup, tu es devenue, tu as atteint un niveau suffisamment fluent, suffisamment, comment dire, courant pour t'en sortir très bien dans ta vie quotidienne et au boulot?
Oui. À la fin, franchement, je me suis épatée toute seule.
Ouais, bien.
Même mes chefs me disaient, c'est impressionnant le niveau que tu as atteint et tout, c'est vraiment très bien.
D'accord.
Donc, bon, c'était dur, hein, ça a mis bien 6 bons mois avant que je sois vraiment à l'aise. Au début, Je comprenais ce qu'on me disait, j'arrivais pas à répondre parce que je me disais je vais me tromper, ça va être nul et tout. Et en fait, les collègues ont vraiment beaucoup aidé, les clients étaient aussi très gentils à dire ah non, il faudrait que tu dises ça comme ça ou comme si. Mais à la fin, j'avais pris toutes les expressions des locaux.
D'accord.
Et effectivement, quand tu voyages hors des zones un peu touristiques ou hors des grandes villes, à savoir un peu la langue, ça aide vraiment à
passer
à voir et à demander son chemin. Donc, bien contente de l'avoir appris, même si c'était dur.
Ouais. tu t'en rappelles encore maintenant? Enfin, tu le parles encore assez couramment ou t'as perdu un peu?
Je peux comprendre et le lire sans problème, mais c'est vrai que du coup, quand je le parle maintenant, ça va se mélanger avec de l'espagnol et ça va faire ce qui s'appelle ici du portugnol. Voilà. Et quand je suis arrivée en Argentine, effectivement, je me rappelais pas. Enfin, je mélangeais un peu ce que je me rappelais de mon espagnol et ce que je me rappelais du portugais, donc c'était un peu moche. Je pense que ça faisait mal aux oreilles aux gens, mais bon.
Ouais, d'accord. Et t'as mentionné une durée. Donc, quand tu pars pour Rio de Janeiro, pour le Brésil, toi, dans ton esprit, tu pars pour une mission de 2 ans, c'est ça?
Alors, j'avais posé la question justement pour savoir quoi emmener dans mes valises et que faire de mes affaires. Et donc, la personne que j'avais eue m'avait dit « Vous pouvez vous y attendre à être au moins 2 ans. »
D'accord.
Ou 2-3 ans, je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit. Et au final, je crois qu'on est revenu en France en février 2013, donc on va dire 2 ans et demi en tout.
Ouais.
Sachant qu'après Rio, j'ai eu une offre pour un transfert dans une autre ville du Brésil, donc qui était à 2 heures au nord de Rio, qui s'appelle Macaé, ou Macael, comme ils disent là-bas.
Ouais.
Qui est une ville qu'on pourrait considérer qu'une ville pétrolière, quoi, un terminal pétrolier avec toutes les plateformes, toutes les entreprises. C'était moins sympa que Rio. Mmh. Je crois que j'avais un peu regretté d'avoir pris ce poste, mais ça n'a duré qu'un an, donc un peu moins d'un an, donc c'était pas si grave. C'était différent, quoi. Au moins, on a vécu la vie de plus de village.
Ouais, donc t'as fait 1 an et demi plus ou moins à Rio, et après un an, à peu près un an à comment t'as dit?
Macaé. Oui, c'est ça.
D'accord, ok.
C'est quand même intéressant. Là, par contre, on avait un petit appart bord de la mer avec une piscine. C'était pas la même vie que Rio, parce que tous nos amis étaient à Rio, donc c'était un peu dommage. Mais on a quand même bien apprécié notre petite vie là-bas aussi.
D'accord. Et quelles seraient, selon toi, les différences majeures? Enfin, j'imagine que... Je connais pas le Brésil, j'ai jamais mis les pieds, j'aurais dû, mais malheureusement, petit contretemps dans mon voyage m'en a empêché. Quelles sont les différences majeures pour toi entre la vie à la française, enfin la vie en France en tout cas, et que tu connaissais du coup, la vie en Provence, etc., et cette vie au Brésil, alors que ce soit à Rio et puis à Macaé, même si j'imagine qu'il y a aussi des différences entre Macaé et Rio, puisque tu le disais, c'est un peu plus campagne à Macaé.
Oui, ouais. Ce qui me fait toujours plaisir quand j'y retourne, même si j'ai plus trop l'occasion, c'est que les gens sont tellement cool. Genre, rien n'est stressant, tout est tranquilo, comme ils disent.
Ouais.
Tout va bien. Non, ils sont juste cool, souriants, sympas. Comment dire? Ils t'aident, ils te donnent plein de conseils. Non, c'est juste agréable, quoi. Les gens sont sympas et bon, la ville est à Rio, la ville est assez incroyable quand même. Il y a la plage, la montagne, les petits singes, les perroquets. T'as l'impression d'être dans un, t'es sous les tropiques, quoi.
Ouais.
Et du coup, le style de vie va avec. Les gens sont à la cool, ils vont à la plage, avant le matin, avant d'aller au boulot, ils vont surfer. Enfin, c'est J'avais trouvé ça tellement, tellement relaxant, tellement cool par rapport au, à quelques mois de stage que j'avais fait à Paris.
Ouais.
Oh, c'était un changement, ça faisait du bien.
Ouais, j'imagine.
Après, on a parlé un peu de l'aspect sécurité, que moi, finalement, ça ne m'a pas dérangé plus que ça, même si tu vois les choses passer. Après, non, c'était vraiment une vie à la cool, on va dire.
Ok. Tu nous le disais, vous revenez en février 2013.
Voilà.
Donc, c'est la fin de la mission. Ou est-ce que c'est toi qui demandes à rentrer parce que t'en as marre ou...
Alors, moi, j'avais demandé à ce qu'on me trouve un transfert parce que je commençais à m'ennuyer à Mackay, justement. J'aimais beaucoup mes clients, les collègues que j'avais là-bas et tout, mais c'est vrai qu'on commençait à se... Au niveau carrière, je commençais à vraiment voir le bout. Et du coup, j'ai demandé à la RH de me trouver un transfert ailleurs. Je n'ai pas forcément demandé à rentrer en France. Et il s'est trouvé qu'il y avait une position qui pourrait me correspondre à Montpellier. Donc moi, ça m'allait bien parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. J'ai fait mon master là-bas. Mm-hmm. Donc, j'ai passé les entretiens quand on est revenu en décembre pour les fêtes. Et finalement, ça s'est fait. Et le temps de finir les papiers au Brésil et de faire les papiers français, ce qui était beaucoup plus facile parce qu'en tant que Français, il n'y a pas vraiment de soucis. Et oui, donc mi-février 2013, retour en France pour continuer dans la même boîte du coup, mais en France.
D'accord.
Et pendant jusqu'à 2018,
ouais.
Mars 2018.
D'accord. Ce qui nous mène tout naturellement donc à la deuxième étape de ton parcours, mars 2018, tu repars avec ton conjoint et cette fois-ci vous partez pour l'Argentine. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur les opportunités qui se sont présentées pour vous et ce qui a fait que vous êtes partie ?
Déjà, ce qui est important, c'est que c'est plus bon. Du coup, entre temps, je me suis séparée de mon premier de mon premier copain, mon mari,
oui.
Ex-mari du coup. Voilà, quelques années avant de repartir en Argentine. Et donc, la nouvelle personne avec qui je me suis mise, qui travaille dans la même boîte que moi à l'époque.
D'accord.
Donc, lui aussi dans l'industrie pétrolière, voilà. Et il se trouve que c'est lui qui a eu l'opportunité, fin 2017, on lui a proposé l'Argentine. Et donc, on s'est concerté. Moi, je lui ai dit, écoute, je vais demander une année sabbatique déjà pour commencer, puis voir si moi, on ne peut pas me trouver un transfert aussi, quoi. Comme c'est la même boîte et qu'on fait à peu près le même genre de boulot, il y a peut-être moyen. Mm-hmm. Donc, pour aller plus vite, je prends une année sabbatique, comme ça, on peut partir. Lui part quelques mois, moi, je le rejoins quelques mois plus tard et je commence mon année sabbatique tranquille pépère en 2018. En Argentine, à Buenos Aires.
À Buenos Aires, ok. Et du coup, comment se passe votre arrivée à Buenos Aires ? Quelles sont les grandes différences ? Tu connaissais un petit peu la vie en Amérique latine. Est-ce que tu es surprise par ce que tu découvres, agréablement ou désagréablement d'ailleurs ?
Alors, c'est marrant parce que Buenos Aires et l'Argentine, en fait, je connaissais déjà. Quand j'étais au Brésil, on avait fait un week-end de 3 jours avec une copine à Buenos Aires parce que c'est à 3 heures de vol. Donc, on s'était fait un petit week-end entre filles pour aller visiter un peu la ville. Je crois que c'était en 2012 ou un truc comme ça, sans penser du tout que j'allais retourner un jour, quoi. Mmh. Et en 2013, j'ai aussi fait un voyage avec des copines qui étaient un peu imprévues. On a fait le tour de l'Argentine sur 2 semaines, un peu en mode sac à dos, backpack, quoi. C'était pas D'accord. pareil, c'était un truc un peu impromptu. Donc du coup, j'avais déjà eu une première impression de la ville de Buenos Aires et de quelques parties de l'Argentine. Et bon, je me rappelais plus très bien. Mais par contre, ce que je me rappelais, et que c'est toujours le cas, c'est très européen en fait. Il n'y a pas un gros choc quand on arrive à Buenos Aires. Il y a des rues, on se croirait à Paris. Tu penses que tu vas trouver un Vélib au coin de la rue, tellement c'est similaire.
Ah, d'accord.
Les bâtiments, les lampadaires, les bancs, ouais. C'est rigolo. Et il y a des endroits qui font un peu plus penser à des petites rues de des villes comme Madrid ou Londres. C'est vraiment un mix.
D'accord.
Et c'est, ouais, on se sent pas franchement dépaysé, mais il y a quand même un petit côté qui fait que c'est pas chez nous, on va dire. Mais c'est vraiment très agréable. Il n'y a pas de choc. Après, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas aller dans les favelas locales et tout. Là, ouais. Forcément, c'est pas... Voilà. Mais non, mais tout ce qui est ville, les quartiers où nous on habite, où nos amis habitent, le quartier d'affaires, ça ressemble un peu à ce qu'on connaît chez nous, quoi.
Ok.
En plus cool, parce que c'est l'Amérique du Sud.
Ouais, ouais. Il y a aussi cet aspect justement de, dans le tempérament des gens, on va dire culturellement, les gens sont plus relax, plus cool, comme tu l'avais mentionné pour le Brésil.
Ouais, ils sont très très cool. Vraiment, c'est agréable. Hein. Pas vraiment de stress. Après, c'est pas facile ici parce que les locaux ont quand même une économie qui est très instable. Alors d'arriver à être cool et de prendre bien les choses, c'est vraiment c'est impressionnant hein, parce que en tant qu'expat, on voit pas trop on n'est pas trop affecté par les changements par l'inflation, les changements économiques. Mais les locaux, ouais, ça doit pas être facile quand t'es disons, quand tu es au SMIC local, ça ne va pas être facile quand même à vivre. Et ils arrivent quand même à profiter, à être joyeux, souriant.
D'accord.
Ouais.
Et alors, je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément spécifié. Quand on parle d'expatrié, finalement, il y a deux définitions. Il y a le fait de s'expatrier au sens littéral du terme, c'est-à-dire de quitter sa patrie et d'aller vivre ailleurs. Mais je pense qu'il y a un peu un synonyme, enfin un synonyme, je ne sais pas si c'est un synonyme, mais en tout cas, il y a une autre définition, entre guillemets, qui implique qu'on a en fait un contrat français, qu'on est vraiment détaché d'une boîte française, mais qu'on travaille à l'étranger avec, du coup, les cotisations sociales, notamment, qui continuent de se faire en France et certains autres avantages. Et du coup, alors, je voudrais clarifier avec toi, est-ce que ton conjoint, là, est parti en contrat expatrié dans le sens, rattachement à une boîte française, ou est-ce que vous êtes lui, en contrat local là-bas?
Non, il est en contrat expatrié. Donc, avec D'accord. les avantages de salaire, de logement qui est pris en charge, de quelqu'un qui t'aide à faire tes démarches de visa. Ouais, non. Lui, il a un contrat expatrié, ouais.
D'accord, ok. Donc là, ça fait combien de temps? Ça fait un an à peu près que vous y êtes, c'est ça?
Du coup, ça va faire 2 ans. Lui, il est arrivé en décembre 2017, donc ça va faire 2 ans, là, le mois qui vient. Et bon, moi, je suis venue quelques semaines pour les fêtes cette année-là. Ensuite, je suis retournée à Montpellier finaliser un peu mon année sabbatique, tout ça. Mettre mon appart en location, vendre ma voiture, ce genre de choses. Et je suis arrivée en mars 2018.
D'accord,
donc ça fait un an et demi, un an et demi.
D'accord, et est-ce que tu es toujours en année sabbatique là alors?
Alors non, ça c'est fini, et après j'ai eu quelques mois de congés sans solde, et au final comme j'ai pas eu de transfert et que je ne voulais pas retourner à mon poste en France, et bien on a mis fin à mon contrat en fait, mon contrat français.
D'accord. Et alors, du coup, la différence avec ta première expatriation, c'est que la première fois, tu avais été, toi, transféré par l'entreprise et ton conjoint de l'époque t'avait suivi. Cette fois-ci, c'est ton conjoint, en tout cas ton nouveau conjoint qui est transféré et toi qui le suis. Comment est-ce que tu vis ce renversement, entre guillemets, de statut, quoi, de conjoint qui suit son mari?
Alors, c'est rigolo du coup, mais alors ça me stressait pas trop. Je me suis dit l'entreprise va aussi m'aider à faire mon visa, même si on n'est pas marié et tout. Sauf que pas du tout, en fait, ça ne s'est pas fait. Donc moi, il fallait que je trouve une solution pour pouvoir rester légalement dans le pays et éventuellement pouvoir travailler sans être en visa touriste. Donc quand on n'a pas forcément envie de se marier pour des histoires de visa et que ça ira pas forcément plus vite en plus parce qu'il faut quand même plein de paperasse. Du coup, je me suis dit, je vais m'inscrire à la fac, suivre 2-3 cours comme ça pendant mon année sabbatique, ça me fera faire quelque chose déjà, ça m'apprendra un peu l'espagnol, et puis comme ça j'ai un visa étudiant et je peux éventuellement postuler, si je veux retravailler, je peux postuler en local, en contrat local, quoi, avec un visa qui te permet de rester, quoi. Parce que sinon, D'accord. les visas touristes, t'es obligé de sortir et rentrer du pays tous les 3 mois pour avoir un nouveau tampon. Donc, c'est pas très compliqué, il suffit de prendre le ferry, d'aller en Uruguay et de revenir parce que c'est en face. Sauf qu'au bout d'un moment, ils peuvent quand même te regarder de travers. Ça fait quand même, ça fait 6 fois que vous passez, vous, non? Donc, bon, la plupart des gens font comme ça. Mais ouais, on préférait quand même essayer de faire un peu les choses proprement. Et surtout parce que moi, je me voyais pas ne pas travailler du tout. Et je me dis, au moins, j'ai un visa qui me permet de travailler. Et si j'ai envie, si je trouve quelque chose qui me plaît, au moins, il n'y a pas de souci. Donc, je fais ça. Je prévois un peu avant de partir d'avoir les papiers sur moi pour pouvoir faire mon visa en arrivant, un visa étudiant. J'avais un peu regardé ce que je voulais faire, pris un peu une fac au hasard, pris une licence au hasard que finalement, on ne m'a pas plu du tout. Donc, j'ai fait mon visa. J'ai fait peut-être un mois et demi de cours. J'ai pas du tout aimé. Ça m'a pas plu. Et du coup, j'ai laissé tomber la fac. Par contre, j'avais toujours mon visa. Et avec la fac, j'avais eu des cours d'espagnol inclus. et qui devait être des cours en groupe, mais finalement, il n'y avait que moi dans mon niveau. Donc, du coup, j'avais des cours particuliers avec une prof qui était géniale, qui m'a appris énormément. Et du coup, à la fin de ça, j'étais à l'aise, quoi. Pas bilingue, hein, mais à l'aise. Donc, ça, c'était cool. Et du coup, j'avais un visa et je pouvais faire ce que je voulais pour le reste de l'année. Vu que c'était un visa d'un an, même si je n'avais pas fini les cours et pas validé mon année, c'était pas grave, je pouvais garder le visa que j'avais.
D'accord, et c'était donc un visa qui te permettait de travailler alors ?
Oui, celui-là te donne les mêmes droits qu'un visa que celui de mon copain qui a un visa expat. Il n'y a rien d'écrit spécial dessus, il y a écrit résident étranger avec une date de fin qui est la date d'anniversaire de ton visa, quoi. Le seul souci que j'aurais eu, c'est comment je le renouvelle si je dois le renouveler vu que je ne suis plus à la fac et que je n'ai pas de travail. Bon, après, ça c'est une autre histoire, mais... Mais du coup, j'avais le visa, donc j'étais contente. J'avais ma petite carte d'identité argentine. Voilà.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et justement au niveau visa, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Au niveau carrière, qu'est-ce que tu fais?
Quand on m'a dit clairement qu'il n'y aurait pas de transfert pour moi possible ici ou de poste dans notre boîte commune ici à Buenos Aires, je me suis dit, moi, je vais commencer à regarder un peu les offres, voir ce qu'il y a, si c'est quelque chose qui pourrait me convenir, qui se rapporte à ce que je faisais peut-être en France, et que du coup, je pourrais peut-être postuler à ça. J'ai postulé à quelques trucs, passé quelques entretiens, pas mal d'entretiens d'ailleurs, et cette année, en mars, début mars, j'ai eu un poste donc dans une petite boîte de consulting ici qui fait du consulting sur des projets IT pour des clients aux États-Unis. Donc, il fallait parler anglais et espagnol, donc ça m'allait très bien. Et donc voilà, du coup, j'ai commencé à travailler et ça fait, je suis toujours dans cette boîte pour le moment.
D'accord. Et du coup, eux t'ont sponsorisé un visa pour pouvoir rester plus longtemps que le premier visa d'un an que tu avais alors.
Alors ça, c'était toute une histoire parce que quand ils m'ont embauché, moi, j'ai pas posé la question, est-ce que vous sponsorisez les visas pour moi? Ils m'engagent, ils savent que je suis étrangère, ils doivent savoir qu'il y a des démarches à faire. Sauf que pas du tout, j'ai pas posé la question et eux ne se sont pas posé la question non plus. Et en fait, en Argentine, pour pouvoir employer des étrangers, il faut être affilié à un espèce de registre qui s'appelle le RENUR. Et en fait, dedans, il y a toutes les universités, toutes les boîtes internationales, tous les supermarchés souvent. Et en fait, eux ne le savaient pas. Et moi, quand je me suis rendu compte qu'il fallait ce papier-là, je leur ai demandé, ils m'ont dit, ah, on ne sait pas ce que c'est et tout, on va se renseigner. Hein. Donc, ils se renseignent, ils voient que ça coûte un petit peu des sous. Bon, pas non plus énorme, ça devait être de l'ordre de quelques centaines de dollars. Donc, ils me disent, ça ne nous arrange pas trop quand même de payer ça, surtout pour une seule personne. Tu veux pas faire une... Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils voulaient que je fasse un Pax ou un mariage du coup avec mon chéri pour avoir le visa de cette façon-là. Je fais, ah non, mais attendez... Déjà, non, pas envie. Et
Tu ne l'avais pas fait avant, donc il n'y avait pas forcément de raison que tu le fasses à ce moment-là.
Ça n'ira pas forcément plus vite. Il y avait une deadline quand même. Je me dis, il va falloir faire venir des papiers de France, d'Angleterre pour mon chéri qui n'est pas français. Du coup, j'aurais dit non. Et donc, il commence à me dire, du coup, on ne sait pas si on va le faire vraiment, tout ça. Donc, j'ai un peu passé au-dessus de la RH locale et je suis allée parler au chef aux États-Unis. Qui ont dû mettre un peu la pression et ensuite ils m'ont dit c'est bon, on va te faire le papier. Donc ça a pris des plombes avant d'avoir tous les papiers et j'ai dû insister, hein, ils voulaient que je paye des frais de je sais pas quoi, j'ai dit mais non, ça ne sert à rien. Je savais presque plus sur le système que eux, à force de faire des visas pour toi, d'avoir les copains qui te racontent leur expérience, tu sais un peu comment ça marche, limite mieux que les locaux, bon. Parce qu'eux n'ont pas à se soucier ce genre de truc normalement. Et donc du coup, je finis par avoir le papier. Je vais à l'immigration avec quelqu'un de la boîte qui signe aussi le papier pour avoir le visa, tout ça. Et bim, j'ai mon nouveau visa. Donc, que je suis toujours pas récupéré d'ailleurs. Donc en fait, je l'ai, mais je ne l'ai même pas récupéré. Mais bon, au moins, je n'ai pas eu à arrêter de travailler parce que sinon, j'aurais été en situation illégale, en fait, on va dire. Il y a des boîtes que ça ne dérange pas, mais la mienne était vraiment stressée sur ça. Ils avaient peur de se prendre une amende, que quelqu'un débarque en disant « Oui, cet employé-là… » Alors que non, personne n'aurait vérifié, mais bon. Au moins, c'est fait, c'est propre. On a fait le visa. Bon, j'ai dû insister un peu, mais bon.
Mais bon, dans l'ensemble, a priori, de ce que tu me racontes, ça a l'air quand même assez simple, en tout cas, de pouvoir faire un visa une fois qu'on est sur place. Parce que mon seul autre exemple, forcément, c'est les États-Unis. Et ça peut être un peu plus compliqué, en fait. Ça nécessite parfois de devoir rentrer en France, repasser par l'ambassade du pays en France, avant d'avoir tous les papiers en ordre.
Je m'étais aussi posé la question, je me laissais de côté, en fait, parce qu'on a droit qu'à une fois de faire les visas vacances-travail. Ça existe ici aussi. Et il n'y a pas énormément de demandes par rapport aux places, comparé par exemple à l'Australie ou au Canada, où je pense que tout le monde veut aller. L'Argentine propose cette offre-là aussi. Donc je m'étais dit, si je n'arrive pas à renouveler ou si je n'arrive pas à avoir mon visa étudiant, je fais les papiers pour faire un PVT et je me débrouille pour avoir ce visa vacances-travail-là, qui me donne effectivement les droits de travailler aussi. Mais comme on a droit qu'à une fois, une année ou un an et demi, je ne sais plus combien de temps c'est, je m'étais dit, je me le garde en secours.
En dernier recours.
Voilà. Dernier recours. Mais finalement, pas besoin.
Je ne savais pas du tout que c'était une option, le PVT en Argentine. Donc, c'est super, super info, très bon, très bon à savoir.
Et je pense que c'est top pour les gens qui le font parce que c'est un pays où la vie est très peu chère. Vraiment très peu chère. Donc, on arrive avec des économies, j'imagine, et tu peux vivre un an, balader, faire du volontariat ou travailler et vraiment profiter. Je pense que c'est top. Je pense que c'est une super destination.
Super. Et du coup, au niveau carrière, alors, comment ça se passe dans ton nouveau job ? Est-ce que c'est loin de ce que tu faisais avant ou est-ce que c'est relativement proche ?
Alors, ça ressemble beaucoup à ce que je faisais à Montpellier. Je travaillais dans un centre technologique de développement de logiciels qui était pour l'industrie pétrolière. Mais en fait, ce sont des process qu'on peut appliquer à n'importe quelle industrie. Donc là, je bosse sur des projets IT et c'est le projet sur lequel je suis c'est des logiciels de détection de fraude, en fait, de fraude bancaire ou à l'assurance.
D'accord.
Donc, pas vraiment grand-chose à voir. Mais le process de développement et de suivi du projet est le même, parce que ce sont des process quoi, globaux, on va dire, à toutes ces industries. Et donc, ça m'a pas pris trop de... J'ai pas eu trop de soucis, en fait, à m'adapter. La façon de travailler est à peu près la même. Je travaille avec des développeurs, avec un mec qui gère plus ou moins le projet, quelqu'un qui gère le côté avec le client. Et moi, je fais du contrôle qualité.
Super. Et ça te plaît ?
Bon, ça va. Les gens sont sympas, l'équipe est sympa. Bon, au bout d'un moment, l'espagnol, des fois, à la fin de la journée, j'ai mal au crâne. Mais non, ça va. Ils ont l'air contents de moi. Tout se passe bien. Il y a bonne ambiance. Mmh. Donc, c'est plutôt cool. Puis ça m'occupe surtout. Chouette. Moi, je déteste rien faire.
Oui, je peux comprendre. Je me retrouve un peu là-dedans aussi.
C'est bien quelques mois, on profite et tout. Mais après, normalement, quand on a fait le tour de tous les petits bars du quartier, que tu t'es rendu compte que le shopping, c'était pas top. Et voilà, quoi. Il n'y a plus grand-chose à faire.
Et alors, travailler avec des Argentins, quelles sont les différences culturelles que tu as pu remarquer par rapport à la France, par exemple ?
Vu que c'est à peu près le même genre de boulot et le même genre de personnes, donc des ingénieurs informatiques, quoi, on se rend compte qu'ils ont les mêmes genres de blagues, les mêmes genres de discussions que avec qui je travaillais en France. Et finalement, y a pas beaucoup de différences, quoi.
Et je pensais notamment, par exemple, au niveau des horaires de travail ou des choses comme ça. Parce que je pense, par exemple, au modèle espagnol où on sait que par rapport à la France, ils ont tendance à commencer plus tard, à finir plus tard aussi en soirée. Est-ce que la vie est un peu comme ça, décalée Enfin, décalée. Ouais, en tout cas, qu'elle fonctionne sur d'autres horaires, quoi.
Au niveau des horaires de travail, pas trop. C'est de l'ordre du 8h, 5h ou de 9h, 18h, quelque chose comme ça. Par contre, c'est vrai que quand ils sortent, s'ils sortent en soirée, ils sortent tard, quoi. Ils se donnent rendez-vous à 1h du matin et finissent à 7h. Enfin, moi, 1h du matin, c'est le moment où je rentre normalement parce que c'est bon, ça suffit. Mais non, au niveau des horaires de travail, c'est à peu près les mêmes. Enfin, dans notre boîte, là, c'est flexible. Tu peux arriver entre 8 et 10 et partir entre 5 et 7. Ouais, je fais à peu près un mix entre les deux suivant les jours et puis ça se passe bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont, beaucoup de. Toutes les boîtes offrent pas mal de bénéfices en temps. Dans le sens où tu as le déjeuner inclus, donc tu déjeunes tous ensemble au bureau. On a un jour de télétravail par semaine, deux quand tu as plus d'ancienneté, ce qui m'avait toujours été refusé en France. Et je trouve ça tellement cool d'avoir ça. Tu peux rester chez toi, travailler ta terrasse, t'as pas à te prendre le métro. Ah non, c'est cool, franchement.
Ouais,
ça aide à avoir un environnement où tu te sens bien, quoi.
Ouais, moins de stress aussi.
Ouais, c'est ça, moins de stress. Bon, ça compense pour les tout petits salaires par rapport à chez nous. Je pense que si je convertis, il y a un mois, j'ai converti en euros ce que j'ai gagné. Et je pense que pour 40 heures, je n'étais même pas à 700 euros.
D'accord, ouais.
Donc, je me dis, oui, on se plaint chez nous, mais non, faut pas. Vraiment pas.
Autre chose que je me demandais, c'est est-ce qu'il y a une grosse communauté française à Buenos Aires ?
Alors, j'ai rencontré pas mal de Français, ouais. On a un couple d'amis là français avec qui on s'entend vraiment bien. Et en fait, il y a une grosse communauté de gens qui sont en VIE. Je ne sais pas si tu connais.
Oui, ouais, ouais. Volontariat international.
Et en fait, je ne sais plus comment j'ai rencontré la première. J'ai rencontré une fille qui ensuite on est allé à un barbecue, il y avait plein d'autres VIE. Et en fait, il y en a beaucoup. Je pense qu'il doit être une centaine ou une cinquantaine de jeunes en VIE. Donc chacun vient avec son copain ou sa copine qui fait plus ou moins ou du volontariat ou qu'un PVT. Donc en fait, bah oui, il y a des Français partout.
Ouais.
Et on a énormément d'amis aussi de Colombie. C'est quelques étrangers anglais, américains, mais beaucoup moins. Amérique du Sud, France, ouais, il y a beaucoup de gens. Brésiliens, il y a beaucoup de Brésiliens, ouais. Parce que pendant que je travaillais pas, j'allais au... En fait, la boîte de mon chéri a une association pour les épouses, en fait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va bruncher, en fait. On va bruncher, on va dans les musées.
Chouette.
Ça, tous les mois. Et donc, j'ai rencontré quelques filles là-bas. Et il y avait quand même, oui, effectivement, beaucoup de... Il y avait des Argentines, il y avait des Brésiliennes, des Colombiennes, des Vénézuéliennes. Il n'y avait pas d'autres Français. Ils sont tous partis avant que j'arrive. C'était bien ma chance. Du coup, tu vois que c'est assez divers.
C'est vrai que c'est un vrai bénéfice, ça. Enfin, bénéfice, avantage, je pense qu'on dit en français,
ouais.
D'avoir ce genre de prestations, parce que quand on arrive et que justement on est le conjoint qui a suivi, c'est pas toujours évident de se refaire un peu un cercle d'amis
ou en tout cas
de connaissances. Ouais. L'aspect social peut être dur, je trouve.
Bah oui, moi je trouve aussi, je m'étais dit qu'à la fac, j'allais peut-être me trouver des copains, mais en fait, ils avaient tous 17-18 ans. Je sais pas pourquoi ils commencent aussi tôt la fac, ici, mais. Et du coup, c'était bon, je ne me suis pas du tout sentie à me faire des copains. Je suis allée à la salle de sport, au yoga, en me disant que j'aurais peut-être faire des copines de yoga, mais non. et au final, je ne sais plus comment ça s'est fait, qu'on a rencontré quelqu'un qui te présente quelqu'un, tu vas à un barbecue, il y a d'autres gens, tu échanges les numéros, ouais. hop, tu essaies d'insister un peu. Moi, j'ai du mal à insister sur les gens, ils vont se dire qu'elle n'a pas d'amis, celle-là et tout. Et on m'a dit, mais tout le monde est dans le même cas, en fait. Personne n'a d'amis, donc il faut un peu forcer les choses. Et après, bon, après, ça va mieux. Donc, c'est pas comme... Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est difficile quand tu dis t'as pas tes amis de la fac, t'as pas tes amis d'enfance, t'as pas d'enfants, donc tu vas pas à l'école rencontrer les mamans, te faire des copines mamans ou quoi. Donc, comment tu rencontres des gens, en fait? Et oui, c'est effectivement, je me suis inscrite sur le groupe Facebook Français en Argentine ou Français à Buenos Aires. Et je pense que c'est comme ça que ça a commencé. Mon chéri se foutait de moi en disant mais t'as pas besoin de faire ça, tu vas rencontrer des gens normalement. Et pour lui c'est facile, il rencontre des gens au boulot, il parle à des gens toute la journée, mais quand t'es à la maison tu vas parler avec qui, quoi? Pas la postière, pas la serveuse du coin, même si elles sont très gentilles, voilà, c'est pas mes copines.
C'est limité, quoi, en tout cas.
C'est ça. Et voilà, et ça peut paraître bête, mais effectivement, s'inscrire sur des groupes comme ça, ou quand quelqu'un te dit « Ah, j'ai ma cousine de copine que je connais qui est à Buenos Aires », eh ben, tu t'en fous, tu l'appelles, voilà, on verra bien.
Non, mais c'est vrai qu'il faut se créer aussi des opportunités, voilà, de rencontrer des gens, de recréer un peu un cercle.
C'est ça, tu recrées un cercle. Et après... T'as tellement un bon cercle que quand les gens s'en vont, bah, tout le monde est tout triste.
Ouais.
Parce qu'on sait que c'est du temporaire, mais bon, c'est vrai que... Mais même si c'est du temporaire qui est vraiment sympa, quoi. Quand t'as un petit groupe sympa, et que tout le monde est un peu dans le même cas, à vivre loin de chez soi, mais dans un nouveau chez soi, bon, c'est chouette.
Et alors, tu m'offres une belle transition, puisque tu parles de temporaire. Est-ce que vous êtes en Argentine pour une durée délimitée, enfin définie? Est-ce que vous pouvez renouveler un petit peu comme vous voulez? Et surtout, comment vous voyez les choses et de quoi vous avez envie, en fait?
Alors, on nous avait dit au départ que les contrats étaient de 3 à 5 ans à peu près, parce qu'ensuite, après, ils sont censés de passer en contrat local. Et bon, ça, c'est pas très avantageux pour quand tu es étranger, on va dire, autant avoir des bénéfices quand on peut, quoi. Et donc là, ça fait 2 ans, et en fait, l'économie ici est en train de vraiment se casser la gueule, on va dire, avec le nouveau gouvernement. Et donc, en fait, on est en attente d'un nouveau transfert, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. On nous a dit que ça touche à sa fin, on va dire. D'ici quelques mois, je pense qu'on sera parti. Mais pour l'instant, on n'a pas de date, et on n'a encore rien signé, donc... On attend.
D'accord. Et du coup, le transfert sera forcément... je veux dire, même si vous partez vers un autre pays, il y aura un stop en France, ou est-ce que peut-être que vous allez transférer directement vers un autre pays?
Bon, ça va dépendre de où c'est. Mais bon, il y a toujours moyen de dire on fait un petit stop ici ou là, mais... Je pense qu'on partira directement où que ce soit, ouais.
D'accord. Et vous, justement, vous êtes ouvert à toutes les destinations?
Oui, je crois que mon chéri a mis des restrictions... dans son profil, mais surtout sur des pays où il y a des soucis de droits de l'homme ou de choses comme ça. Mm-hmm. Bon, après, non, nous, on est ouvert à tout pays. Enfin, moi, surtout, moi, je m'en fous complètement. J'aime bien m'adapter à un nouvel endroit, découvrir un nouveau quartier, une nouvelle vie. Même galérer avec les papiers, ça me... C'est pas que ça me dérange pas, c'est que, bon, ça fait partie du processus d'apprentissage. Ouais. Et après, t'es rodé, quoi. On te dit, ah, il faut aller à la salle. Tu fais, ah, pas de problème, je sais où c'est. Je sais ce qu'il faut demander. Je l'ai fait déjà.
D'accord, voilà. Donc prêt pour potentiellement la nouvelle aventure qui va se présenter. Mais du coup, pas forcément un retour en France alors.
Bah, on est ouvert à tout, nous. On verra bien ce qui, ouais. On verra bien ce qui se passe. Ça me dérangerait pas plus que ça, ou l'Europe proche pour être plus près de la famille, tout ça, parce que c'est vrai quand même que ça fait deux trois ans qu'on rentre pas pour Noël, donc ça fait un peu. Ce serait cool d'avoir des gens, d'être plus proche de la famille, quoi. On a eu des visites, ouais, mais c'est vrai que l'Argentine, c'est loin. Hein. Enfin, quand on regarde sur la carte, Buenos Aires, c'est très très bas par rapport à chez nous. 13 heures de vol, plus
ouais,
c'est top.
Très au sud.
Ouais, ouais. Par contre, c'est top pour les vacances.
Ouais, j'imagine. Ça a l'air d'être une destination vraiment très sympa.
Bah, ouais, j'ai l'impression que les gens ne pensent pas forcément à venir jusqu'ici. En se disant, bon, il n'y a pas la mer turquoise, les palmiers et tout, mais il y a tellement d'autres choses. Et surtout, ça coûte vraiment pas cher. Mais vraiment, ça va nous faire un choc, je pense, souvent où on va après. de payer son essence plus d'un euro le lit, de payer ta bière plus d'un euro 50.
Non, mais c'est vrai qu'après, il y a des destinations qui sont pas chères. Hein. Enfin, moi, j'ai fait, même si ça date un petit peu, la Thaïlande. Pareil, on était parti en backpacking pendant un mois.
Pas même style de prix, on va dire. C'est ça, man, tu manges très bien. Tu voyages pour pas grand-chose. Après, les distances sont immenses. Il faut prévoir de passer une nuit dans un bus de temps en temps ou de prendre des vols low-cost. Mais c'est vraiment... j'encourage les gens, si vous voulez faire des vacances un peu différentes, mais pas trop. Vraiment, la nourriture est excellente. Le vin, ah, mais le vin, la viande... Oh, c'est un pays de carnivores, hein, mais...
Ouais.
Oh là là. Non, mais vraiment, oui, top.
Bon, on note.
Ouais. Je pense qu'on va regretter la viande, on va regretter le vin pas cher et excellent. Enfin, des petites choses comme ça.
On vous en trouverait peut-être en import dans le prochain pays.
C'est clair.
Est-ce qu'il y a, par rapport à cette expatriation, alors que ce soit le Brésil ou maintenant l'Argentine, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment si c'était à refaire ? Pas forcément des regrets, parce que j'aime pas tant parler en termes de regrets, mais juste voilà, des choses que tu aborderais différemment parce que tu as maintenant la connaissance et en fait aussi des conseils que tu donnerais à des futurs expats pour l'un de ces deux pays.
Alors moi, je dirais que dans les deux cas, il faut se renseigner au maximum sur ce que vous pouvez avoir comme visa, que ce soit touriste, pas forcément se dire « Ah, je vais me faire sponsoriser par une entreprise ». Il y a d'autres solutions que ça ou que de se marier. Donc, il y a les visas étudiants, les visas PVT. Et une fois que vous avez décidé de quoi faire, préparez un peu en avance vos papiers. Comme ça, vous arrivez, il n'y a pas de stress de se dire « Il faut que je renvoie un papier en France, on va me le renvoyer, ça ne va jamais arriver ». Et s'éviter du stress au maximum en bien préparant son départ, je pense que c'est un bon conseil. Et ce que j'ai pas fait au Brésil et que je sais même pas pourquoi, mais je suis arrivée sans argent en fait. J'avais pas de salaire, pas de travail.
Et sans liquide.
C'est ça, sans liquide. J'avais quelques économies, mais vraiment pas grand-chose. Et quand on m'a dit, c'est trop tard pour le salaire de ce mois-ci, il faudra que ce soit le mois prochain. On va te mettre dans l'hôtel là en centre-ville, il va falloir que tu le payes toi. J'ai fait non, mais là je sais pas comment. Je me cachais toute fois que je passais à la réception pour pas qu'on me demande de payer ma note parce que j'avais pas de sous. Premier boulot, j'avais pas encore reçu mon salaire et tout. Je me dis comment je vais faire. Et non, revenir avec des économies, du cash, préparer ses papiers, et se dire, enfin, c'est à chaque fin d'expatriation, on se dit on n'a pas voyagé assez, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, on n'a pas été là. Il y a toujours le petit regret de se dire j'aurais bien aimé aller à cet endroit-là, on n'a pas eu le temps.
Ouais, je reconnais que, enfin, moi, en étant en Oregon, j'ai l'impression d'avoir pas mal voyagé, mais j'y suis restée 4 ans et demi et je me dis mais ça, on aurait quand même pu le faire.
Mais c'est ça, parce que tu commences par les trucs connus et après tu découvres plein d'autres petits trucs que t'as envie d'aller voir, mais il n'y a pas le temps, quoi. Bon, on a quand même fait pas mal, j'avoue, et j'espère qu'on arrivera à squeezer un dernier petit trip quelque part. Avant de partir, mais C'est toujours ça, les regrets.
Après, c'est vrai que l'Argentine, c'est aussi immense. Donc, tout faire, ça prend... tout faire et bien le faire aussi.
C'est ça,
il y a
en fait.
Ça, je pense.
Oui, voilà.
Parce qu'on, je pense qu'on peut faire beaucoup, mais on peut survoler. Après, si on veut vraiment prendre le temps de, voilà, de faire des belles expériences de voyage, bah, c'est vrai que ça demande un peu plus de temps. Ouais. Et finalement, quand on part expatrié et qu'on a un job, bah, on n'a pas tant de temps.
Mais c'est ça, voilà. Il n'y a pas beaucoup de jours de vacances. Il y a 15 jours. Donc moi, depuis que je suis arrivée, j'ai pris je ne sais pas combien de congés sans solde, juste pour pouvoir partir un week-end plus long ou pour pouvoir rentrer en France.
Ouais.
Parce que sinon, les jours de vacances, c'est 15 jours, c'est vraiment très peu. Ouais.
Ouais, c'est sûr. Alors, on arrive presque à la fin de cette interview, mais du coup, c'est encore une fois une très belle transition puisque, tu le sais peut-être, on aime demander à nos invités de nous faire 3 recommandations de lieux. Alors ça peut être des lieux touristiques ou plus ou moins touristiques, ça peut être un petit café sympa qu'il ne faut pas rater, mais voilà, des expériences un peu insolites ou en tout cas peut-être un peu hors des sentiers hyper touristiques qu'on peut voir dans les guides. Alors qu'est-ce que tu nous conseillerais, soit au Brésil, soit en Argentine ou même les deux comme tu veux.
Bon, on va plutôt dire l'Argentine. C'est vrai que le Brésil, je pense que j'ai fait les trucs assez touristiques qui sont déjà connus. Alors, Argentine, on va dire. Les gens connaissent les chutes d'Iguaçu, le glacier Perito Moreno, tout ça. Donc, ça, c'est des classiques. Nous, on a adoré la région de Salta, qui est dans le nord de l'Argentine, avec la frontière entre le Chili et la Bolivie. C'est cette zone-là. C'est désertique.
Ouais.
Il y a un grand lac salé, un peu comme celui qu'il y a en Bolivie. Et ce lieu, mais en tant que nous, on est géologue, donc tout ce qui est cailloux, formation rocheuse, on est comme ça, on est comme des fous. On a adoré. L'immensité de ces paysages a coupé le souffle vraiment. C'est de style très inca parce que c'est le nord, là où il y avait les populations inca. Donc c'est un style différent de la ville de Buenos Aires, qui est vraiment très européenne. Et là, tu te dis, t'es vraiment en Amérique du Sud, t'es vraiment près des Andes, t'es haut en altitude, c'est l'air est pur, le désert, c'est magnifique. Les vallées de cactus, ce coin est fabuleux. Il faut bien une bonne semaine pour faire le tour tranquillement, en essayant de ne pas faire comme nous et de ne pas se planter la voiture dans le lac salé, parce qu'on n'a pas suivi le guide.
Voilà. Visitez cette région, un guide.
Allez là où il y a le guide.
Comment vous en êtes sorti du coup?
C'est une histoire de fou. Ah ben non, parce que il y a pas de réseau, il y a personne. C'est au milieu du lac salé, il y a personne à perte de vue. Donc on a fait notre Pékin Express, on a pris notre sac à dos, notre bouteille d'eau et on a marché jusqu'à trouver quelqu'un qui a essayé de nous dépanner, moyennant finance, qui n'a pas réussi, qui a embourbé sa bagnole en même temps. Et donc, on est sorti de là, je pense, à 4h du mat. Et le gars nous a jeté, après négociation, nous a jeté à 4 km de notre hôtel. Et on a marché, jusqu'à rentrer. En laissant la voiture, elle est restée là-bas.
Et lui, il a réussi à ressortir la sienne, par contre?
Oui.
D'accord.
Il valait mieux parce que sinon, on était tous coincés là.
D'accord.
C'était
une sacrée aventure, ouais. Et la voiture, elle a été dépannée quand même plus tard.
Et je crois qu'ils sont retournés la chercher. Par contre, quand ils l'ont récupérée, il n'y avait plus les roues. Je pense que le gars était revenu et qu'il avait pris les roues.
C'était servi au passage. C'était sa commission.
Non, je pense qu'il voulait négocier avec l'entreprise de dépannage. Ah, on vous rend les roues. Enfin, on vous aide à la sortir, machin. Et sinon, on vous rend pas les roues. Enfin, ce genre de magouille. Ouais. Bon, nous, notre
premier emprunt,
on a laissé l'assurance gérer ça. Et on a fini le trip avec une petite moto qui était finalement très sympa aussi.
Un bon plan B.
Et donc,
après,
vous avez dit 3 endroits, 3 recommandations.
Ouais, ou 3 recommandations. Ça peut vraiment être tout ce que tu veux. Ça peut être un resto, un parc, un musée, vraiment.
Alors, nous, on adore le quartier où on habite à Buenos Aires. C'est le quartier de Palermo, ça s'appelle. C'est vraiment adorable. C'est que des petits buildings pas très hauts, des cafés à tous les coins de rue. C'est très vert. C'est des petites rues pavées, des maisons en briques. Si vous passez à Buenos Aires, essayez de vous loger dans ce quartier-là et de vraiment juste se balader à pied, chercher les petits coffee shops calés dans les ruelles. C'est vraiment adorable. Il y a plein de bars très sympas, plein de cafés qui sont excellents. On mange très très bien, on boit très bien pour pas cher. Il y a des rooftops avec des vues magnifiques. C'est vraiment un quartier chouette. Et nous, le lieu qu'on préfère en Argentine, bon, entre il y a le nord, la Salta, et il y a une ville qui s'appelle Bariloche. Et en fait, ça ressemble énormément à ceux qui connaissent. Enfin, pour ceux qui connaissent, ça va leur paraître comme la Suisse ou comme le Canada. Ça ressemble vraiment à ça. Et c'est marrant parce que moi, je serais plutôt vacances plage. Mais c'est vrai que là, c'est des vacances, on va dire, montagne avec des lacs. Mais c'est tellement joli. C'est des forêts avec des couleurs d'automne, des lacs, des rivières où tu peux te baigner. C'est la nature, quoi. Mais vraiment la nature pure. Et c'est. Ça fait tellement du bien.
D'accord. Ouais.
C'est un lieu, un lieu
donc
magnifique.
Une grande diversité de paysages,
et ça,
finalement.
Et oui, oui. Quand tu vois la longueur du pays, bah, tu as de l'exotique, du glacier.
Du désert.
Tu vas aller à Ushuaïa, je pense qu'il dépasse jamais les 10 degrés là-bas, tellement il fait froid, tellement c'est loin de tout. Ouais, le désert, la jungle au nord, ouais, avec les chutes d'Iguassu, t'es au Brésil, t'es dans la jungle, tu descends, t'es dans le désert de sel, tu descends un peu plus bas, t'es dans les montagnes des Andes avec les vignobles d'altitude, ensuite t'as les lacs, ensuite t'as les glaciers. Enfin, ouais, non, c'est vraiment très très divers, effectivement. On s'ennuie jamais, il y a toujours quelque chose à voir et ce sera jamais pareil.
Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, mais en tout cas, rien qu'en parlant avec toi, là, tu vois, ça me donne envie, là, tout de suite, de réserver un billet pour Buenos Aires.
Venez.
Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a tellement à voir et à découvrir. Bon, moi, j'ai des enfants un peu petits, donc j'attends qu'ils soient un tout petit peu plus grands parce que, voilà, c'est plus confortable pour tout le monde pour faire des longs voyages comme ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas, une destination à pas négliger.
Ah non,
quoi,
ouais, vraiment pas, ouais. Pareil, avant de m'expatrier, j'aurais pas forcément pensé. J'avais fait mes vacances, je me suis dit, ah, c'est cool, j'ai vu, je suis venue, et puis voilà. Et en fait, non, y vivre, c'est vraiment très sympa. Ouais, on est très contents d'avoir eu la chance de venir ici. Vraiment, ça va nous manquer, je pense, au début. Et ouais. Bon, après, on s'y fera, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance.
Mais écoute, en tout cas, Lysiane, ce que je te souhaite. Enfin, je vous souhaite avec ton chéri que l'aventure dure encore le plus longtemps possible, puisque vous avez l'air de vous y plaire. Et puis surtout, puisqu'il semblerait qu'elle doive s'arrêter, ou en tout cas que l'aventure prenne un autre tournant, que vous trouviez une destination qui vous plaise et dans laquelle vous vous épanouirez également.
Merci, bah oui, j'espère aussi. On va profiter au maximum avant qu'on parte. Là, en plus, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud,
ouais.
C'est sympa.
Mais ouais, c'est chouette, mais en tout cas, t'as l'air hyper positive et je suis pas trop inquiète pour votre prochaine destination. Vous avez l'air d'être ouvert.
Ouais, il faut en fait, il faut être positif. Il faut pas voir les choses, il faut pas vraiment voir les négatifs partout, même si des fois il y a des galères de paperasse et tout. Il faut juste voir. Et positive, et nous on est très positif, très ouvert. Puis ça ouvre l'esprit aussi, l'expatriation, hein, c'est un cliché, mais c'est vrai. Hein.
Ouais, non, mais tout à fait, on est bien d'accord. Cool. Bon, bah écoute, en tout cas, peut-être au plaisir de te recevoir dans quelques mois ou quelques années pour parler d'une nouvelle destination, alors.
Bien sûr, avec plaisir.
Super. Merci encore, Lysiane, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et est-ce que, si on veut te trouver, tu es sur les réseaux sociaux ?
Oui, j'ai Instagram. J'essaye de poster des jolies photos de Buenos Aires, mais c'est vrai que la journée, c'est tellement métro boulot dodo qu'il n'y a pas forcément énormément de contenu. C'est Lizou86.
D'accord, ça marche. On mettra le contact dans le descriptif du podcast. Je te souhaite une excellente journée, puisqu'il est encore assez tôt chez toi. Et puis, au plaisir d'avoir de tes nouvelles pour le futur.
Ben, merci beaucoup. Bonne journée également.
Merci. À bientôt.
À bientôt.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un avis sur iTunes. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur Instagram et Facebook @FrenchExpatLePodcast, tout attaché. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, plateformes et réseaux sociaux, direction notre site web frenchexpatpodcast.com. Dans le prochain épisode, vous retrouverez Anne Fleur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.